Comment accélérer des projets quand on manque de compétences et de moyens financiers et comment mobiliser des gens différents autour de défis communs?
Eh bien, il se trouve qu'il y a notamment un outil qui peut répondre à tout ça, le hackathon. Et pour comprendre pourquoi et à quel point il peut être modulable, nous allons passer les 20 prochaines minutes avec Diana Portela. Alors Diana, avant de commencer, je pense qu'une petite présentation est nécessaire. Donc tu es pédagogue engagée, donc tu conçois, tu mets en œuvre et tu évalues des projets pédagogiques. Et depuis ton début de carrière, tes expériences et tes démarches d'orientation ont beaucoup tourné autour de l'entrepreneuriat, de la pédagogie et d'une sensibilité certaine aux enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est un détail qui a son importance parce qu'en mai dernier, tu empruntes un outil tout originaire de la tech et du monde des startups, donc le hackathon. Tu l'adaptes des projets pédagogiques, mais pas n'importe quel projet, puisque tu vas choisir des projets à impact social qui sont portés par des acteurs de la solidarité. Donc c'est un gros événement, environ une trentaine de participants, 6 projets, sachant qu'au départ tu en avais rencontré 17, et plus de 500 heures bénévoles passées sur l'organisation, et ça sans compter les heures des participants. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, et ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de donner des pistes, en fait, de voir comment on peut adapter cet outil à d'autres contextes, peut-être plus locaux, peut-être avec moins de moyens humains aussi. Plus globalement, comprendre quelles sont les réflexions, les idées à avoir pour adapter un outil en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de nous parler du hackathon que tu as fait et qui t'a donné cette idée de départ de faire ton propre hackathon.
Bonjour Elodie et merci de m'interroger aujourd'hui sur le sujet de cette hackathon donc que moi j'ai appelé éducathon pour mélanger éducation et hackathon et qui a eu lieu donc en octobre dernier. L'objectif pour moi c'était surtout donc d'aider des projets à impact social et environnemental qui avaient des problématiques pédagogiques et de mobiliser donc la communauté que j'avais d'ingénieurs pédagogiques sur ces thématiques-là pour faire du mécénat de compétences. Alors l'idée de l'éducathon m'est en fait venue moi-même d'un hackathon auquel j'ai participé et aussi par toute mon expérience entrepreneuriale où finalement on employait souvent ce type de format. Et donc en mai 2022, quelque chose autour de ces dates-là, j'ai participé moi-même à un hackathon qui était du coup plus destiné à des profils tech et qui était organisé donc par l'UNESCO et Latitude. Et c'est un hackathon qui nous a beaucoup inspirés parce qu'on résolvait justement des problématiques environnementales et on a remporté le prix innovation pour l'aspect pédagogique de notre solution. Suite à ça, moi je me suis dit, ok, c'est un format hyper intéressant. Est-ce que on pourrait pas au sein de ma communauté mettre ça aussi en place et nous-mêmes, moi-même, mettre en place un hackathon pour aller résoudre des problématiques plus d'ordre pédagogique?
Ça marche. Et donc, du coup, pour passer de l'un à l'autre, pour passer de celui que tu observes à celui que tu veux organiser, tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu veux changer. Et la question, c'est comment tu procèdes pour les adapter, pour adapter le premier format à ce que tu veux faire.
Oui, alors ayant participé à différents événements entrepreneuriaux, le hackathon et après d'autres événements derrière, je me suis dit qu'il y avait deux, trois choses qui n'étaient pas tout à fait OK pour moi. Toujours dans une optique déjà potentiellement de valeur, le format des fois de 48 heures où on n'a pas de week-end, je suis du coup passée à un format de 24 heures. Les fameuses nuits blanches qu'on peut retrouver pendant ces événements, donc moi c'était un événement sans nuit blanche. Et aussi toute l'utilité qu'on peut avoir derrière cet hackathon, de vraiment penser que ces personnes-là s'investissaient bénévolement et du coup, quel est l'intérêt pour elles, avec quelle valeur elles vont repartir, autant du côté des projets qui, eux, s'impliquent et vivent pour leurs projets, et des ingénieurs pédagogiques qui s'investissent bénévolement pendant 24 heures pour aider des projets concrets qui vont ensuite voir le jour. Donc, par rapport à tout ça, moi, j'ai fait une liste, on va dire, de qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui ne me convenait pas, qu'est-ce que j'allais réutiliser et qu'est-ce qu'il fallait transformer. Et pour prendre mes décisions, je me suis surtout posé la question de c'est quoi l'objectif à la fin de l'éducathon? Qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit produit à la fin de l'éducathon? Et par rapport à ça, c'est ça qui doit guider toutes les décisions, comme le recrutement des projets, les personnes qui vont s'investir pendant le projet, la durée, toutes les modalités.
Ça marche.
Et ben, du coup, pour illustrer ce que je te propose maintenant et pour les 10-15 minutes qui viennent, ça va être de faire justement un exercice de projection. Donc avec d'autres objectifs, avec d'autres porteurs. Alors l'idée, c'est pas que ce soit totalement au point, hein. C'est pas de nous inventer là en 5 minutes un nouvel hackathon de 30 personnes, 500 heures. Mais...
Oui, voilà. On n'aurait pas la prétention.
Ça va plutôt être donc de faire ressortir tous ces éléments qu'on peut transformer dans un hackathon, de faire ressortir aussi toutes les réflexions qu'il faut avoir avant d'en mettre un en place. Et donc, pour ce faire, je vais te soumettre trois situations. Et donc, pour chacune de ces situations, donc l'idée, ça va être que tu nous dises est-ce que tu penses qu'un hackathon pourrait les aider à résoudre leurs problèmes? Est-ce que tu vois des points d'attention particuliers, des freins, des blocages par rapport à ce format pour chaque situation? Donc, alors, la première situation, c'est une entreprise, alors une entreprise du bâtiment qui a du mal à embaucher, autant des ingénieurs, des cadres, des commerciaux que plus des ouvriers. Alors, cette entreprise, elle a une certaine sensibilité à l'environnement et elle serait prête éventuellement à intégrer de nouvelles pratiques, à changer ses pratiques, à intégrer de nouvelles idées. Mais elle veut quand même vérifier avant vers quoi elle s'oriente. Et donc, elle se demande est-ce que je pourrais pas organiser un hackathon pour ça?
Ok. Du coup, là, je pense que ce qui est intéressant, déjà, c'est de se demander quelle est vraiment la problématique. Et ici, on voit qu'il y a vraiment une problématique de recrutement, donc de divers profils. Dans ce cadre, on voit qu'un hackathon, ça pourrait servir à repérer, on va dire, des talents lors de l'élaboration des différents projets. Par contre, voilà, moi, je vais poser une question qui est plus d'ordre éthique et qui est... de mon point de vue, c'est sur la notion de transparence par rapport aux candidats et à l'investissement qu'on leur demande, c'est-à-dire de quand on fait un processus de recrutement, qu'est-ce qu'on demande aux candidats et est-ce que lui demander de participer à un événement comme ça qui demande un fort investissement, c'est pas trop demandé dans le cadre d'un recrutement? Et aussi, est-ce que ça ne risque pas de transformer le comportement du candidat parce qu'il est sous évaluation, sous tout le stress qu'on a pu tous vivre hein, dans un entretien à chaque fois? On voit bien que dans un entretien, on n'est pas toujours complètement nous-mêmes. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de biais qui rentrent en compte et il y a vraiment une question éthique aussi à se poser par rapport à cet événement-là. Donc je dirais que déjà, être complètement transparent sur la démarche. Et si on demande aux personnes de s'investir, il faut qu'il y ait un véritable intérêt pour elles, qu'elles soient recrutées à la fin ou non. Donc, il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on va leur apporter. Si là, l'entreprise, on voit qu'elle a une sensibilité à l'environnement, plutôt que de dire aussi, venez résoudre nos problèmes à nous, qui peut être aussi, attention, comme du travail déguisé, parce que l'entreprise peut avoir les moyens finalement de recruter des personnes qui pourraient résoudre ce problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer par un intermédiaire, l'entreprise qui vient soutenir des associations sur l'environnement, peut-être sur l'architecture biosourcée, sur peut-être certains matériaux produits par certaines filiales qui sont d'ordre artisanal. Enfin, est-ce que l'entreprise ne peut pas mobiliser, par exemple, plutôt d'autres acteurs qui, eux, n'ont pas forcément les moyens financiers pour avoir des solutions derrière concrètes et par l'intermédiaire de cet événement que l'entreprise finalement vient sponsoriser. Elle peut repérer des profils qui auraient cette sensibilité à l'environnement et qui pourraient avoir envie de s'investir sur une entreprise qui aussi porte ses valeurs.
Ça marche. Juste petite question avant de passer à la situation suivante. Du coup, pas forcément dans le cadre entreprise, mais est-ce que ça se fait des hackathons manuels, on va dire vraiment, par exemple, créer quelque chose de technique, de concret, je sais pas, une boîte, un vélo, quelque chose. Est-ce que ça peut se faire sous cette forme-là?
Oui, alors après, je dirais qu'on peut aussi appeler nos événements avec plein de noms différents. On peut les appeler hackathon, créathon, atelier. Voilà, il y a aussi une dimension marketing hein, dans ces noms-là. Après, c'est surtout enfin, on peut en fait modeler cet événement à l'infini. Après, dans le hackathon, il y a quand même toute une idée de challenge. Si on est plus dans apprendre, je vais dire, je sais pas, n'importe quoi. apprendre à monter son éolienne ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on n'est pas plus de l'ordre de l'atelier, de la sensibilisation? Voilà, c'est plus de bien se poser la question de l'objectif avant d'essayer de mettre un nom, en fait, finalement, sur les choses. Et après, des fois, on voit bien qu'il y a des noms qui ne correspondent pas toujours aux événements, mais finalement, c'est pas ça le plus important.
Ok, bah du coup, alors ça nous fait une belle transition sur la seconde situation qui est un peu en lien. Donc là, on a une collectivité qui aimerait faire avancer des petits projets locaux sur son territoire, qui n'a pas des masses de moyens, et puis bah, qui aimerait bien que ce soit les habitants du territoire ou les acteurs locaux qui travaillent sur ces projets-là. Et puis, ben en plus, elle a des questions de comment créer, pardon, une cohésion entre les nouveaux arrivants, les anciens habitants, ce genre de choses. Donc, elle aussi souhaiterait savoir si un hackathon peut faire quelque chose pour elle.
Ok. Alors dans ce cas, on voit qu'il y a différentes problématiques et il peut y avoir aussi une question de hiérarchisation des objectifs. On a d'un côté la résolution de problèmes locaux et d'un autre côté, on a la question de la relation entre les habitants, les anciens et les nouveaux habitants. Donc, dans le cadre d'un hackathon, qui peut être un format aussi assez intense, il y a la question qui se pose très vite de la durée d'engagement des habitants. Ça peut être difficile d'engager les habitants sur une journée complète, voire même plus. Est-ce que les habitants sur des problématiques finalement de leur territoire, ils n'ont pas envie d'aller regarder sur différents projets, différentes problématiques? Donc voilà, il peut y avoir pas mal de problématiques autour du format. Et la question, c'est plutôt que de mettre en place un hackathon, enfin, toujours. Quel est réellement l'objectif? Si l'objectif, c'est d'impliquer les habitants sur les problématiques que se pose la mairie, bah, ça peut être simplement des conférences, des petits ateliers. Si c'est que les habitants proposent vraiment des solutions concrètes, là, on peut réfléchir à un format un peu plus hackathon, enfin voilà, qui ressemble un peu plus à l'hackathon, mais plus sous des formats, par exemple, d'ateliers d'une ou 2 heures avec des brainstorming où on va venir, tous les habitants peuvent venir, pardon, proposer leurs idées. Et si l'objectif, c'est vraiment juste de créer du lien entre les nouveaux et les anciens habitants, bah ça, on voit que finalement, les territoires mettent en place souvent pas mal d'événements qui sont de cet ordre-là. Et dans ce cas, bah, on peut impliquer tous les projets locaux, les associations locales, voilà, pour créer plutôt des moments de rassemblement. Donc il y a vraiment une question du public et de l'engagement en fait de ce public.
Est-ce que tu penses que des jeunes, par exemple, si on veut mobiliser les jeunes d'une commune, le côté défi, le côté challenge, ça peut plus les attirer, justement. Ça peut peut-être les mobiliser là où ils ne seraient pas venus sur quelque chose de plus tranquille, genre une réunion de 2 heures ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une différence entre les publics comme ça?
Bah, je dirais que là, ça regroupe l'aspect un peu de gamification qu'on a souvent aussi dans mon métier. Et on se rend compte que déjà, on se laisse tous, à tout âge, porter par les défis, par la compétition, par ces aspects-là. Donc, ça marche à tous les âges, en fait, ce côté-là, d'être attiré par un défi concret. La preuve, c'est que pendant mon événement, ce n'était pas forcément une cible jeune, on était plutôt sur des personnes diplômées avec beaucoup d'expérience et ils étaient attirés par le côté défi. Donc voilà, ça plaît à tout le monde ce côté défi. Après, c'est sûr que c'est peut-être plus sympa de mobiliser, peut-être sur un atelier ou sur quelque chose où on va vraiment se sentir écouté, on va vraiment avoir un pouvoir de proposition que sur une conférence hyper descendante, on va nous dire voilà, c'est comme ça. Et là, je pense que c'est à tous les âges. Après, bien sûr, si on souhaite parler à une cible plus jeune, il y a sans doute des adaptations qui sont à prévoir. On va pas parler de la même façon à des lycéens qu'à des personnes cinquantenaires. Voilà, il y a tout un langage à réadapter, il y a des défis potentiellement différents à adapter, comme il peut y avoir de l'intergénérationnel aussi.
On va passer à la troisième situation. Alors, on revient sur l'emploi, sauf que cette fois-ci, ben, c'est de l'autre côté, c'est un groupe de chercheurs d'emploi. Donc, 4-5 personnes qui ont un peu du mal à trouver du travail, qui n'ont pas envie spécialement d'attendre qu'on vienne les chercher et leur donner leur chance. Et qui aimeraient bien réaliser quelque chose pour se redonner confiance, bah, pour prouver qu'ils arrivent à faire quelque chose, pourquoi pas pour développer leur propre activité et montrer aux entreprises qu'ils sont capables de faire, est-ce que dans ce cas-là, par exemple, peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire avec un hackathon?
Alors là, on voit que le problème, c'est vraiment, enfin, qu'il y a cette idée de je veux monter en compétence, je veux montrer ce dont je suis capable, et potentiellement, on voit qu'il peut y avoir une réflexion entrepreneuriale sur ce côté-là de développer ma propre activité. Donc, je dirais que là, plutôt que de penser direct au hackathon, c'est pareil, ça peut être un nom qui est aussi marketing à ce moment-là. Bah, si on est plusieurs personnes engagées, bah, on peut simplement poser une date, se rassembler. On n'a pas besoin d'y mettre toute une grande organisation autour. Dans le cadre de la montée en compétences, on peut très bien se fixer une idée d'un projet très concret en se disant, bah, oui, pendant une journée à quatre, on va passer par différentes étapes pour résoudre telle problématique et à la fin avoir un livrable assez poussé. Et qui peut être présenté devant de potentiels recruteurs et donc qui va venir alimenter leur portfolio. On peut aussi avoir une dynamique un peu plus entrepreneuriale de on a peut-être l'envie de monter un projet ensemble et on va utiliser bah oui, ces techniques un peu plus entrepreneuriales, toute cette méthodologie-là pour commencer à réfléchir à ce projet et créer le fameux MVP, donc Minimum Viable Product, qui est en gros le plus produit. Petit produit possible qu'on peut proposer pour aller directement tester sur son marché, s'il y a vraiment cette idée entrepreneuriale derrière. Là où on peut commencer à parler d'hackathon, c'est à partir du moment où peut-être on a envie d'impliquer d'autres personnes, on a envie d'avoir aussi un événement d'une plus grosse ampleur. Mais après, voilà, c'est qu'une question de nom et rien n'empêche de prendre la méthodologie et juste de se rassembler déjà ensemble et de voir ce que ça donne, tout simplement.
Quand je t'ai soumis la situation, tu m'as dit aussi ce serait possible que ce soit une structure qui accompagne la recherche d'emploi, qui organise et qui du coup facilite la mise en relation des différentes compétences. Tu l'avais vu comme ça. Ouais.
Tout à fait. Oui, il y a tout ce côté-là où ça peut être une façon de proposer des alternatives, par exemple, à des personnes qui sont en recherche d'emploi. Si on voit qu'il y a des problématiques de montée en compétences, typiquement de créer un événement où on va peut-être aussi imposer certains outils pour monter en compétences derrière et que à la fin, on sait que tous nos candidats, ils vont avoir aussi quelque chose de concret à présenter aux entreprises et que cet élément concret, ça peut être aussi un élément de différenciant parce qu'on sait que les entreprises, elles ont ce besoin-là en particulier et que cet élément-là en particulier, bah, c'est quelque chose qui va leur parler. Donc ça peut être aussi un enjeu pour une entreprise ou une association qui cherche à aider certaines personnes à trouver un emploi derrière.
Ça marche. Et puis, alors, tu m'as dit, lorsque tu as vu les situations, bah, les personnes, ils vont repartir un peu déçues parce qu'en définitive, toutes les situations sont un peu à modifier, ne sont pas totalement adaptées au contexte du hackathon. Et du coup, donc, tu as proposé d'en présenter une quatrième situation où, qui serait vraiment totalement adaptée au principe du hackathon. Donc, bah, je te laisse en parler, je te laisse la présenter.
Ok, alors je dirais qu'il n'y a déjà pas forcément une situation, oui, complète qui rentre toujours à 100%. Enfin voilà, on voit aussi au fur et à mesure que c'est aussi un nom, le hackathon, et qu'il y a toujours des réadaptations. Et il y a différentes situations où un hackathon pourrait être approprié. On a vu déjà que, par exemple, dans le premier cas, une entreprise, si elle est dans cette idée d'aller aider finalement des projets qui vont peut-être manquer de moyens financiers ou de moyens humains, ça peut être un format qui peut être intéressant pour derrière bah, aider réellement ces projets à mettre en place des réelles actions et leur donner bah, un coup de boost. Hein. Voilà, c'est aussi du bénévolat et c'est une forme de bénévolat qui est condensée en fait à un moment. Et voilà, quand on a besoin en tout cas de mécénat de compétences, ça peut être une bonne façon de facilement mobiliser bah, un groupe de personnes. Donc ça peut être un format tout à fait pertinent. Dans ce cadre-là, une entreprise peut venir, comme on a vu dans le premier cas, plutôt comme partenaire ou soutien finalement à ces associations-là et avoir aussi d'autres objectifs derrière, du moment que l'objectif est complètement transparent. Et puis, on a aussi d'autres situations où quand on voit qu'on a des problématiques pour faire émerger des idées, qu'il n'y a peut-être pas de projet concret, mais qu'on a vraiment envie de se bouger sur un territoire, Peut-être, comme on a vu un peu plus dans le deuxième cas, un format qui pourrait être plus adapté, c'est de se dire, on sait qu'on a déjà des personnes engagées au sein de notre territoire, on sait qu'il y a déjà peut-être des personnes qui sont bénévoles dans des associations, et du coup, on sait qu'elles ont des envies, elles ont, voilà, pour notre territoire, on est ouvert. Attention à toujours avoir cette zone d'ouverture nécessaire à un hackathon, hyper important. On est ouvert aux propositions et on a envie sincèrement que les personnes de notre territoire qui s'investissent déjà proposent des solutions concrètes et on va leur présenter nos problèmes d'une manière tout à fait transparente et avec le format d'hackathon. On sait qu'à la fin de la journée, il y aura aussi une satisfaction parce qu'elles vont sortir avec des idées concrètes, des projets concrets que l'association ou la mairie pourra réellement mettre en place ensuite. Donc, dans ce cas-là, ça demande aussi une ouverture par rapport à ces projets-là. Et les projets qui peuvent sortir, voilà, ça peut être poussé par la mairie, poussé par des associations ou poussé même par les personnes qui se sont investies elles-mêmes et qui disent wow, « Waouh, c'est génial en fait ce qu'on a proposé, peut-être que nous-mêmes, on peut le mettre en place » et avoir aussi une dynamique un peu plus entrepreneuriale. Et dans le dernier cas, voilà, on voit que si on adapte et qu'on introduit un tiers qui est une structure, qui a plusieurs personnes, bah là, on peut peut-être avoir le vrai cas d'un cas où un hackathon est pertinent et que cette structure, elle sait que potentiellement, il y a 5 entreprises voilà, qui, si on leur présente tel portfolio, bah, elles pourraient être enclines à embaucher ces pairs profils-là. Ok, on va leur proposer des défis pour qu'ils aient à ajouter ça dans leur portfolio parce qu'on sait que s'ils n'ont pas cet élément dans leur portfolio, ça va être difficile pour eux de passer cet entretien-là ou d'autres entretiens derrière et que ça va vraiment être un élément différenciant derrière dans leur CV. Dans ce cas-là, ça peut aussi être un format qui peut être adapté.
Ok. Alors, j'avais juste une dernière question et puis après, j'aurais fait le tour. Donc, toi, tu as fait un événement numérique. Dans quel cas il peut être utile de passer au numérique? Et dans quel cas il n'est pas du tout utile?
Ok. Bah du coup, un des cas qui me paraît le plus évident, bah, c'est quand on n'est pas à côté les uns des autres, tout simplement, et que le présentiel n'est pas possible, tout simplement. Je pense qu'on l'a tous expérimenté assez pour savoir qu'il y a des moments où le distanciel s'impose. On a vu aussi, potentiellement, dans le dernier cas, que des fois, c'est intéressant d'introduire du numérique sur notamment de la montée en compétences quand on a des publics qui n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser certains outils numériques, donc toute la question aussi de la fracture numérique. Et ça peut être un format qui peut permettre justement d'introduire certains outils qui peuvent être nécessaires bah, derrière pour de la montée en compétences. Et puis, il y a le cas où aujourd'hui, on voit bien que numérique n'est pas forcément égal à distanciel, en fait. On a du numérique qui peut être introduit simplement quand on est les uns à côté des autres, parce qu'on va avoir un document partagé, que c'est plus facile de prendre des notes les uns avec les autres, ou d'avoir un tableau blanc sur nos ordinateurs, ou que si on veut faire une petite infographie ou un visuel, bah, c'est plus facile de passer sur l'ordinateur que de le dessiner à la main. Donc, des fois, enfin, le numérique peut aussi s'introduire au présentiel, on peut avoir des formats mixtes. Et je dirais qu'il y a pas, enfin, il y a presque aucun cas où on n'a aucune justification du numérique. La question, c'est surtout à quoi ça sert réellement le numérique et de ne pas mettre en place du numérique gadget qui est juste là où on met du numérique pour mettre du numérique. Et il y a des fois où oui, on se rendra compte que bah, finalement, en présentiel, sans numérique du tout, ça marche tout aussi bien et le numérique n'apporte aucune valeur ajoutée. Dans ce cas, bah, on n'a pas forcément intérêt tout simplement à l'ajouter. Et pour se baser sur cet aspect-là, moi je sais qu'en formation, je me base souvent sur le modèle SAMR. Alors, donc c'est substitution, augmentation, modification, redéfinition. Et donc, qui est cette idée de jusqu'à quel niveau, en fait, on intègre du numérique. Quand on se pose cette question, c'est un modèle qui est assez intéressant pour voir à quel moment le numérique est pertinent et qu'est-ce qu'implique le numérique derrière.
Ça marche. Ok, bah merci, merci pour toutes ces pistes. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, à ajouter? Un premier petit tour d'horizon, parce que je pense que on pourrait passer des heures.
Oui, bah, je dirais juste pour terminer que voilà, ne pas s'accrocher forcément au nom, à Caton, et plutôt vraiment s'intéresser à l'objectif pur et dur et vraiment creuser à quoi ça sert réellement cet événement, quelle est la finalité derrière. Ça peut s'appeler hackathon, ça peut s'appeler de plein d'autres façons différentes. ne pas avoir peur d'inventer finalement son propre événement. C'est pas parce qu'on trouve pas ça en ligne que ça veut dire qu'il faut pas le faire finalement. C'est pas parce que personne n'a fait. Enfin voilà. Moi, le côté éducation et hackathon, enfin c'est pas forcément quelque chose qui a été regroupé et ça m'a pas empêché de le faire et finalement ça a bien fonctionné. Donc voilà, ne pas avoir peur aussi finalement de proposer ses propres idées du moment que ça répond à un objectif concret et de pas avoir peur de des fois se tromper. Hein. Quand on innove, forcément, on peut créer des événements qui vont fonctionner, pas fonctionner et c'est tout à fait normal. Il faut juste pas avoir peur de réessayer en apprenant à chaque fois de ses erreurs.
Ça marche. Bah, merci beaucoup.
Merci à toi pour d'avoir en tout cas pensé à ce type de format et pour des territoires, je pense que ça peut être une réflexion hyper intéressante.
Et bah du coup, au revoir, à la prochaine.
Merci, à bientôt Elodie.